RMC, quand Brigitte Lahaye fait son show, c'est le Lahaye Night Show.
Et nous allons repartir bien sûr avec le Love Test, notre Love Conseil. J'évoquerai le Face Sitting ce soir et ensuite on terminera par une lecture érotique d'un roman que je vous présenterai tout à l'heure. Mais tout de suite, le Love Test avec Seymour Bruxelles, donc notre homme du soir, notre bio-énergéticien qui va donc poser trois questions, une à moi-même bien sûr, une à Julie Duchemin qui est avec nous, sexologue et architecte du désir, et une à Jessica, notre fidèle auditrice de RMC. Alors, Seymour Bruxelles, vous choisissez par... vous commencez par qui?
Jessica.
D'accord. Et Jessica, elle vous écoute.
Je suis là.
Interpréter le début d'un film X avec l'accent italien.
Alors, si c'est que le début d'un film X...
Le début. Le générique.
Que va ça, non? Va piano. Bella ragazza. Et puis, voilà.
Ah, c'est bon.
Bah oui, parce que si c'est que le début du film érotique, on va pas y aller tout de suite. Hein.
Alors, la traduction, c'est?
Qui va lentement, va
sûrement.
Ce qui veut aller loin, ménage sa monture.
Et belle femme. C'est les seules choses que je sais dire en italien, pardonnez-moi.
Ah bah non, c'est très bien. Julie? Une personne que vous draguez vous annonce qu'il est transsexuel. Comment réagissez-vous?
Très curieuse. Je voudrais en savoir plus. Ça m'intéresserait beaucoup de continuer à draguer cette personne parce que voilà, je suis curieuse de nature et donc je lui dirais ah bon et raconte-moi ton histoire, ton chemin, ton choix, pourquoi, puisque je peux voir. Donc voilà.
Ah oui, jusqu'à voir.
Je serais curieuse.
Bah oui, d'aller un peu plus loin.
C'est bien.
Pas rester psychologue.
Dessin, un peu hermaphrodite comme ça. Oui.
Ah oui. Et même d'essayer.
Ça me plairait. J'étais interviewée l'autre jour sur Tous un peu bi. C'était pour ou contre et j'étais pour. Donc voilà.
D'accord, merci. Brigitte, avez-vous un fantasme encore non assouvi?
Non, bah non.
Alors là, c'est réglé.
Bah oui,
là, ça va vite.
C'est clair et net.
Non.
Question pour vous.
Il y a longtemps d'ailleurs. Hein. C'est peut-être un peu. Voilà, il ne faut peut-être pas tout régler tout de suite. Il faut prendre.
Ah oui, il faut prendre son temps.
Il faut prendre son temps. Alors, Seymour, c'est. Alors voilà, c'est très simple. Il va falloir. Que vous êtes un policier, pas très commode d'ailleurs, et vous allez simuler. Alors non, ça c'est très visuel, donc je vais prendre l'autre côté de parce qu'il fallait simuler une fouille sur Jessica.
À la radio, ça va être difficile.
Ça aurait été très agréable.
On a entendu des cris peut-être, mais c'est
ça aurait été certainement très agréable, mais malheureusement à la radio, ça n'aurait pas été très très auditif pour ceux qui nous écoutent. Donc je retourne la carte et là je lis inventer une histoire pour vous excuser d'avoir envoyé un SMS bourré à votre ex avec trois mots. Je vous donne les trois mots, hein.
Oui.
Débardeur, stylo 4, couleur, maracas. Pas bon pour elle.
Ça, ce sont les trois mots qui étaient dans le SMS.
Qui
doivent être dans le message de réponse.
Oui. Voilà, d'excuse.
Non. Alors,
débardeur, stylo 4, couleur, maracas.
Excuse-moi d'abord, parce que le téléphone que j'ai est un vieux téléphone et très difficile de faire des SMS et des touches avec 3-4 lettres. C'est insupportable, ça met une demi-heure, donc j'ai fait certainement une erreur. En plus, j'avais mal enfilé mon débardeur, ce qui fait que j'avais un bras qui était coincé et je tenais avec une seule main le téléphone et j'appuyais avec le petit doigt sur les touches, donc j'ai pu écrire n'importe quoi. Le stylo 4 couleurs, j'ai voulu envoyer un message en appuyant avec la pointe du stylo, puisque juste que j'étais coincé dans mon débardeur que j'avais autour de la tête, avec le doigt, j'y arrivais plus, et le stylo a dû déraper, écrire n'importe quoi, et quant à mes maracas, j'étais assis dessus, et croyez-moi, ça fait mal quand on est bourré, qu'on s'assoit sur sa paire de maracas.
Bon, ben là, c'est ce qui s'appelle un vrai message, hein. On a le temps de le lire. On voit que
c'est un scénario, ça c'est carrément un scénario.
Tout à fait, on est d'accord.
Écriture SMS.
On écrit et vraiment, moi à ta place, je l'envoie plutôt par mail. Hein,
ou en message verbal, quoi.
En vocal, ça sera peut-être plus simple. Non, enfin, bref. On va peut-être écouter maintenant le témoignage de Stéphane, qui vivait avec une petite amie bipolaire. Damien, lui, était tombé amoureux d'une autre fille alors qu'il était sur le point de se marier. Mais on commence sur les explications de Bruno Poncenard sur les mécanismes de l'adultère.
RMC, quand les femmes se lâchent, c'est dans le Late Night Show.
Déjà, moi, j'aurais voulu... Alors, l'adultère, c'est bien évidemment l'infidélité. Moi, j'aurais voulu mettre un petit point sur ce qu'est-ce que la fidélité. Et pour ça, je vous propose de vous éloigner un petit peu de tout ce qui est nos valeurs morales, notre éducation, la religion, etc. Et comprendre pourquoi c'est important d'être fidèle. Le but de la fidélité, c'est simplement de préserver le couple et la famille. Voilà, c'est protéger, si vous voulez, une entité familiale, une entité de couple. Et le seul but de la fidélité, c'est ça. Alors après... En fonction de nos valeurs, nos éducations et nos croyances, chacun va s'accommoder de la fidélité. Et c'est là qu'on peut arriver effectivement vers l'adultère.
Voilà, mais en même temps, on comprend bien aussi aujourd'hui que c'est de plus en plus facile.
Alors, je ne sais pas si l'occurrence, elle est aussi importante que ça entre il y a quelques années. Ce qu'il y a de certain, c'est que la mise en relation est beaucoup plus simple parce qu'on a Internet, parce qu'on peut se cacher derrière un écran.
Il y a une mixité. Qu'il n'y avait pas il y a 50 ans, par exemple.
80% de l'adultère se passe, par exemple, dans le milieu professionnel.
Absolument.
Voilà. Donc, c'est vrai que l'infidélité, elle arrive parce qu'il y a des tentations, parce que... Après, moi, je dirais qu'il y a deux types d'infidélité. Il y a la tentation et, on va dire un 5 à 7, quelque chose qui va être fugace et qui va pas perdurer, et à la limite, si c'est pas vu, pas pris, c'est pas bien grave, parce que ça met pas en danger le couple. Ce qui est plus dangereux dans l'infidélité...
C'est la relation parallèle.
Et oui, la relation suivie, parce que je deviens dans une position schizoïde, c'est-à-dire coupée en deux avec une double vie. Ma vie avec ma femme, ma vie avec ma maîtresse. Et là, forcément, un jour ou l'autre, il y a une rencontre des deux. Et c'est là que la crise arrive.
On a Damien qui est avec nous, justement. Bonjour Damien.
Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Bonjour.
Bruno Poncenard qui est avec nous. Vous avez 28 ans, Damien. Vous étiez donc sur le point de vous marier en juin dernier, hein, c'est bien ça ?
Voilà, c'est ça.
Et vous avez rencontré donc 2 mois avant votre mariage une femme ?
Oui, voilà, donc dans le cadre de mon travail.
Mais oui.
Et je suis tombé complètement fou amoureux de cette personne. Et donc, 2 mois avant le mariage, j'ai décidé de quitter ma femme pour aller avec cette personne avec qui c'était déjà, on va dire, bien commencé.
D'accord, donc il y avait déjà une relation extra-conjugale, Damien ?
Voilà, oui.
Extra-conjugale.
Pas longtemps, ça n'a pas duré longtemps. Oui. Avant que je quitte ma femme. Et donc voilà, j'ai tout claqué, on va dire, pour cette personne. Et puis bah au final, ça n'a pas marché comme je voulais. Et puis je me suis retrouvé en ayant tout perdu, quoi.
D'accord. Voilà. Alors moi dans ce que j'entends, il peut y avoir deux choses. Soit effectivement j'ai eu la peur de l'engagement, du mariage, et effectivement cette, on va l'appeler la maîtresse, on va dire ma femme est ma maîtresse, mais la maîtresse a été un prétexte pour fuir quelque chose qui me faisait peut-être peur, hein, dans l'engagement, dans les conséquences, dans le mariage implique après une vie de famille, des enfants, etc., etc. Ou alors, et c'est un travail qu'il faut faire après, soit face à soi, j'allais dire, c'est peut-être aussi que effectivement, je m'engageais peut-être vers une voie qui ne me convenait pas, et ma maîtresse m'a permis de partir vers autre chose parce que finalement, j'étais peut-être pas si amoureux que ça de ma femme.
Ben pour le coup, c'est pendant quelques années où j'avais envie de me marier, donc je la demandais en mariage, elle refusait à chaque fois. Jusqu'au jour où elle a accepté, où j'étais vraiment très heureux, quoi.
Oui.
Et après, j'ai fait la rencontre de cette personne complètement différente.
Aujourd'hui, vous avez l'air de regretter de ne pas vous être marié finalement.
Un petit peu, oui, parce que suite à ma deuxième séparation, on va dire, ça n'est pas duré longtemps, j'ai essayé de revenir vers ma femme, parce que vers mon ex-femme, parce que j'avais un regret, et donc elle a jamais voulu, parce que pour elle avait été trahie, tout ça.
Oui, elle était blessée, c'était un point de non-retour.
Oui, c'est difficile, voilà, parce que comme il y avait quand même le mariage prévu vis-à-vis de tout, de toute la famille, de tout l'entourage, c'est un camouflet terrible, Damien, c'est difficile.
Oui,
Brigitte a raison. Et Brigitte a raison, après il y a le regard des autres aussi qui met une pression énorme par rapport à une situation adultérine. C'est souvent, ça se passe entre deux personnes, mais après il y a tous les enjeux familiaux, la belle famille, etc. Et c'est vrai que des fois le point de non-retour est acté parce que tout l'entourage a pris parti, a alimenté la discorde. C'est des fois très compliqué, hein.
Ah ouais, c'est en plus oui, ce qui s'est passé.
Mais donc, Damien, la question qu'il faut vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'au fond, j'étais vraiment amoureux de cette femme quand je l'ai demandé en mariage, ou est-ce que je ne répondais pas une sorte de suivi familial où on se marie et on forme une famille et...
Mais ça, j'ai mis pas mal de temps à tout comprendre.
Oui.
Et en fait, oui, aujourd'hui, je pense que c'est plus ça. Le fait de, que ça faisait longtemps qu'on était ensemble, qu'on ait eu un enfant, tout ça. Je me demande un peu, oui, si c'est pas pour être dans la continuité des choses, de dire, ben, comme
c'est ça,
on a
ça, coupé, c'était pour... puis, Non, mais c'était pour répondre finalement à une conjoncture sociétale. Il fallait se marier parce que c'était dans la suite logique des choses.
Oui, voilà, avec le recul, je pense plutôt que c'est ça.
Oui, mais c'est important que vous analysiez bien ce qui s'est passé, parce que c'est ça aussi qui va définir la manière dont vous allez continuer votre vie amoureuse et la manière dont vous, peut-être, vous pourrez vous engager à nouveau vraiment. Parce que si ça a été une sorte de, comment dirais-je, d'injonction familiale, eh ben, en réaction par une sorte de révolte vis-à-vis de votre père ou de votre mère, vous pouvez avoir mis justement votre mariage en péril. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, 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 tout à fait.
Si on est cohérent avec soi-même, c'est-à-dire avec nos croyances, notre éducation, ce que nos parents désirent, et nous-mêmes, a priori, on ne se fait pas comme ça harakiri, parce que c'est quand même énorme, hein, d'annuler son mariage pratiquement 2 mois avant.
Oui, 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 c'est assez compliqué pour... déjà pour la personne avec qui on devait se marier, pour arriver à tout gérer, le regard des personnes qui comprennent pas spécialement et qui se mêlent
peut-être
de choses qui ne les regardent pas. Mais bon, il faut arriver à affronter tout le monde.
Et puis Damien, il y a autre chose aussi peut-être avec lequel il faut faire le point. Est-ce qu'au fond aujourd'hui vous avez vraiment assumé le comportement que vous avez eu, ou est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps un petit peu de culpabilité ou de honte
Ah si, tout à fait. Surtout par la suite, du mois de juin, juillet, où j'étais vraiment dans un état lamentable, on va dire, et où j'ai fait des choses que je regrette plus que tout.
On parle de quoi, Damien?
Du fait que la personne avec qui j'avais marié, qui a rencontré quelqu'un, où j'ai été violent avec elle, parce que je supportais pas en fait qu'elle refasse quelque chose, alors
D'accord.
que moi j'avais raté en fait de reprendre une vie avec une autre personne.
Alors Damien, c'est difficile là en quelques minutes là mais ce que j'entends derrière, il y a peut-être chez vous un désir inconscient d'échouer. Je sais pas si ça fait écho quand je vous dis ça, mais peut-être que vous avez fait en sorte d'échouer, y compris dans la relation avec le mariage, y compris avec la maîtresse. Il y a peut-être chez vous quelque chose d'un peu, allez, maso, je vais dire le mot, c'est pas du masochisme au sens sexuel du terme, mais peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la recherche de l'échec. Peut-être que vous autorisez pas à être heureux ou à vous engager, ou c'est compliqué, la vie à deux. Hein. Faut être conscient en fait que vivre à deux dans un couple, c'est embellir, c'est entretenir une jolie histoire, une belle illusion. Mais c'est nécessaire pour que le couple perdure.
En tout cas, Damien, merci de nous avoir appelés. Et je pense que ça serait vraiment intéressant que vous fassiez le point avec vous-même sur la manière dont vous avez agi en 2013, pour qu'en 2014, peut-être, vous fassiez une belle rencontre. Merci, Damien.
Bonne chance, Damien.
Nous avons Stéphane qui est avec nous. Bonjour, Stéphane.
Oui, bonjour, Brigitte.
Merci de réagir. Vous avez 38 ans, vous êtes en pleine séparation.
Oui, c'est ça, oui, exactement. Enfin, la séparation, elle est effective depuis mi-novembre. Donc, j'avais quasi tracé un trait dessus. Sauf que, en fait, la personne est revenue un petit peu, on va dire, en profitant des fêtes de Noël pour m'envoyer quelques textos, venir me voir avec son enfant au début d'année. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, il s'avère que elle ne, comment dirais-je ça, elle n'assume pas le fait qu'elle ait fait ça, en fait. parce que...
C'est elle qui avait pris la décision de se séparer, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est elle qui avait pris la décision de se séparer.
Et là, elle a changé d'avis, sauf que vous avez plus du tout envie de la reprendre, visiblement.
Bah, c'est même pas ça. Non, en fait, sincèrement, je pense que j'ai encore des sentiments pour cette personne, malgré tout.
J'en suis pas convaincue, hein.
Pour tout vous expliquer, ça fait... En fait, on est resté un an et demi ensemble. Cette personne, dans sa relation d'avant, a vécu 10 ans avec une personne, a eu un enfant de bas âge avec qui elle a été trompée pendant sa grossesse et ainsi de suite. Donc, du coup, elle s'est séparée par ça. On s'est mis ensemble, on m'a dit, très rapidement, à peu près un mois ou 2 mois après le départ de son ex-mari. Donc, on a construit une autre relation sur beaucoup de difficultés par rapport à sa relation, elle, qu'elle avait terminée. Son petit garçon, forcément, on a recréé entre guillemets une sorte de famille où son petit garçon était, je veux pas dire considéré comme un enfant parce que c'est un long terme, mais par contre, on avait une relation très forte parce qu'il s'identifiait forcément à l'homme que j'étais. Et sauf que avec le temps, cette relation-là était gênante, elle lui a fait peur. Dans le sens que son fils s'est accroché à moi et du coup famille, ça a commencé à mettre des barrières et en fait à la fin quand on s'est séparés, c'était je suis jalouse du temps que tu passes avec mon fils, j'ai peur de m'engager dans une relation sentimentale et ainsi de suite. Donc ça s'est séparé comme ça en fait à l'époque. Moi j'ai pas compris parce que c'était au moment où ça se passait très bien l'un avec l'autre. On avait beaucoup de dialogues par rapport à toutes les histoires qui s'étaient passées jusqu'à là.
D'accord.
Et donc voilà, donc maintenant.
Et là elle revient. Donc en fait Stéphane, ça me paraît assez clair pour moi, comme ça, vu les éléments que vous me donnez, je crois que c'est une femme qui a du mal avec le tiers, c'est-à-dire qu'elle a du mal avec la relation à trois. Elle est bien dans sa relation fusionnelle à son enfant, elle est bien dans cette relation fusionnelle avec vous, mais ça doit toujours être, si vous voulez, elle qui est bien avec soit son fils, soit avec vous. Du moment où vous êtes bien avec son fils... C'est plus possible pour elle parce que du coup elle doit se mettre dans une relation à trois, voyez.
Oui, bien sûr, c'est ça.
Donc c'est là c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur cette difficulté à être plusieurs, parce que dans la vie on est toujours amené à un moment ou à un autre à être dans des relations triangulaires, voire même plus. Et si elle fait pas ce travail là, elle va pas s'en sortir, elle pourra pas réussir sa vie affective et puis son fils va beaucoup souffrir parce que du coup elle va rester dans une relation comme ça très fusionnelle avec son fils. Donc je crois qu'il faut...
problème d'ego. Enfin, moi je sais qu'aujourd'hui c'est vraiment un problème d'ego.
Oui, mais vous appelez ça que... Stéphane, vous appelez ça de l'ego, mais c'est plus embêtant que de l'ego, parce que l'ego on avec le temps, avec l'âge, on arrive un petit peu en principe à le mettre moins en avant. Là c'est vraiment une problématique qui ne peut se travailler qu'avec quelqu'un. Donc il faut, Stéphane, si vous tenez un peu à cette femme et qu'éventuellement vous envisageriez de reprendre la relation, dites-lui d'aller consulter quelqu'un. C'est peut-être...
Elle a été suivie par un psy en fait pendant un an et demi. Le psy a décidé d'arrêter son travail avec elle parce qu'il estimait qu'il devait se terminer à ce moment-là. Parce que c'est quelqu'un qui s'est énormément réfugié en fait dans ses livres pour essayer de trouver le pourquoi du comment à toute séparation, comment élever son enfant tout seul. Enfin, elle lit énormément de livres et c'est vrai que son psy en fait lui, il a dit stop au bout d'un moment. Donc son suivi est arrêté en fait. Aujourd'hui il estime qu'elle n'a plus besoin d'être suivie.
Il faut peut-être qu'elle suive une autre thérapie, quelqu'un d'autre. Vous saviez avec quel genre de psy elle était?
En fait c'était un psychologue.
Ouais, c'est pas la même chose.
Qui faisait beaucoup de rentre dedans et qui lui a fait ouvrir beaucoup de choses pour prendre conscience sur beaucoup de choses. Le souci qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en fait, moi, cette personne me dénigre beaucoup au niveau de son entourage familial et dans son entourage amical. Et quand il y a
Stéphane, vous aussi, vous avez quelque chose à comprendre, parce que vous n'arrêtez pas de me dire cette personne, c'est quand même une femme que vous avez aimée, donc on voit que vous la mettez un petit peu de côté quand même. Donc posez-vous d'abord vraiment tout seul la question, est-ce qu'au fond, vous envisageriez de retrouver cette femme vraiment avec vous dans des conditions de vie à deux formidables? J'en suis pas complètement certaine. C'est d'abord ça la vraie question qu'il faut vous poser. Et si vous n'êtes pas sûr et si finalement vous n'êtes pas vraiment convaincu que ça puisse coller entre vous, à ce moment-là, elle vous a quitté, elle veut revenir, vous n'avez pas envie qu'elle revienne, les choses sont claires et sont simples, hein. Merci Stéphane.
RMC, c'est le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lahaie fait son show, c'est le Lahaie Night Show.
Et c'est notre love conseil du soir, le face sitting, avec Julie Duchemin et Jessica, bien sûr, qui peuvent intervenir hein, pour compléter ce love conseil. Et puis Simon Bruxelles, bien sûr, également. Alors le face sitting, c'est une façon de pratiquer le kuni. Alors c'était une façon assez peu utilisée, je dirais, il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est plus rentré dans les mœurs, parce qu'en fait, les femmes se sont un peu décoincées, hein, je dirais. Donc ça consiste tout simplement, comme le nom l'indique en anglais, hein, face c'est le visage, sitting c'est assis, c'est la femme qui s'assoit sur le visage de l'homme pour vraiment offrir son sexe. Voilà, alors ça faisait même partie un peu des pratiques SM à une certaine époque. Je sais pas si vous le saviez, Julie. Ouais.
Je vois pas trop le côté SM de cette position.
Si, parce qu'on soumet l'homme.
Oui. On lui donne pas le choix, en fait, c'est ça. On lui impose de nous faire une.
Voilà. Et certaines dominatrices le faisaient en s'asseyant vraiment de tout leur poids, ce qui fait que l'homme étouffait presque à moitié.
Oui, les grosses dominatrices, c'était difficile.
Et puis dans les SM,
il y a eu des accidents, des étouffements. Il y a eu des...
Oui. Non, n'exagérons rien. Bref, donc c'est en ça que c'était une pratique.
Ça peut être aussi un anulingus, du coup. On peut présenter son anus à la bouche de l'homme, et là, du coup, il y a peut-être un côté
niveau
tonique plus osé encore.
C'est beaucoup plus pratique. Au niveau tonique musculaire, au niveau position, c'est beaucoup plus pratique d'être les fesses offertes à son partenaire, au niveau du visage et le corps qui se rabat sur un peu comme un 69, en fait, où là, la femme ne pratiquerait pas la fellation, ce serait uniquement ce face-sitting, alors que dans l'autre position, où la femme...
Alors, en effet, elle peut s'asseoir dans les deux sens, dans un sens.
Si
je peux me permettre en tant que victime,
pauvre victime,
c'est pas du tout la même chose lorsqu'elle reste à la verticale et lorsqu'elle se penche en avant. L'angle n'est pas le même.
Non, on est bien d'accord. Et puis surtout, dès qu'elle se penche, elle va moins.
On perd le contact. Voilà. C'est moins fort. Mais personnellement, j'adore. Je vous le dis sincèrement. Mais peu de femmes acceptent de le faire. C'est marrant.
D'être assise,
d'être assise vraiment et garder le torse à la verticale.
Et de regarder finalement de haut, quoi, d'avoir les regards qui se.
J'ai rencontré peu de femmes qui acceptaient.
Mais parce que c'est une position dominante. C'est pour ça que je disais que ça faisait partie, enfin que les dominatrices l'utilisaient beaucoup. Mm-hmm. Et les femmes finalement sont peu dominantes dans la sexualité. Oui. C'est une position vraiment dominante. Vous êtes d'accord,
oui,
Julie
Duchemin? Tout à fait, tout à fait.
Et les femmes se sentent déjà que certaines femmes n'osent pas qu'on leur fasse un cuni. Oui. Donc là, il faut vraiment qu'elles s'affirment.
Le regard, là, le regard effectivement, bon, soit elle peut regarder en l'air, hein, elle peut aussi basculer avec cette fameuse bascule du plaisir qui nous fait plutôt basculer la nuque, mais c'est vrai que si elle veut vraiment maintenir le contact, elle va être plus provocante que si elle s'abandonne. En général, les femmes préfèrent s'abandonner en étant couchées sur le dos et avoir un cunnilingus. Si elles l'acceptent, elles sont plus dans leur univers, tandis que là, elles restent complètement présentes, conscientes, actives et même dominantes.
Et c'est en ça que je dis que c'est plutôt un jeu qu'il faut faire au départ, mais qui n'aboutira pas forcément à l'orgasme. D'abord pour deux raisons, parce que d'abord, elle va pas pouvoir se détendre totalement.
Ou alors,
il faut qu'elle se baisse, qu'elle s'allonge, si je puis dire, à un moment donné pour se laisser aller à ces sensations et non plus à cette tension. Hein. Ouais. Et autre point, les hommes sont pas toujours très à l'aise parce que ils peuvent être. C'est une position qui est pas forcément confortable pour l'homme parce que il peut avoir mal au cou, il peut avoir du mal. Faut avoir une langue un peu de caméléon quand même.
Mais un coussin hein, pour l'homme, un coussin derrière lui dans la nuque comme nous, on en met un quand on a envie de faire une fellation dans cette position là aussi, l'homme à genoux au-dessus de nous. Et je pense que la femme pourrait atteindre l'orgasme si elle est complètement à ce moment-là dans son autonomie, elle prend son plaisir complètement, elle peut bouger son bassin, donc elle peut offrir justement, elle peut bouger sur la langue, donc elle dit à l'homme sors ta langue, et c'est elle qui bouge dessus comme elle a envie.
Ça fait une 30 minutes que j'ai la langue sortie, j'ai commencé à avoir une crampe.
Et qu'elle a chercher des, enfin qu'elle aille chercher dans son, puisqu'on sait que le plaisir vient aussi fort de ce qu'on à quoi on pense, peut-être d'aller chercher un fantasme là, quelque chose, enfin une pensée érotique.
Moi je conseille,
qui la bouche,
je conseille à l'homme de se servir aussi de ses mains, justement, ouais, et... s'il a une crampe pour.
Ouais, après dans cette position là, c'est pas terrible, c'est un.
Bah oui, soyons...
il peut aussi embrasser, enfin il peut prendre ses seins aussi, hein, donc il peut pincer ses mamelons,
faire plein de choses.
Mais disons que cette position là, je trouve qu'elle favorise pas spécialement le fait de lâcher prise pour la femme, parce que comme vous le disiez, on a tendance à vouloir contrôler donc le tonus musculaire, et lors de l'abandon, ben on aurait totalement les cuisses relâchées et on étoufferait,
oui,
carrément.
Mais elle pourrait dans une autre forme de lâcher prise, c'est de se laisser aller elle à ce qu'elle a vraiment envie et d'écouter elle que ses envies.
C'est ça.
Oui.
C'est pour ça que
d'utiliser vraiment l'homme comme.
C'est pour ça que je dis
oui,
bien.
Oui, c'est mais une... c'est ce que l'homme demande. Il réclame aussi. Ça ouais. dans cette situation. Il demande ça.
Mais ce sera dans l'intention. Ce sera un orgasme plus, à mon avis, plus crispé, plus voilà, plus tonique et plus rapide effectivement qu'un orgasme qui par vague, qui dure.
Il faut que ce soit volontaire du côté de la femme, parce que si c'est quelque chose que monsieur il demande à la femme,
si elle arrive pas à se laisser aller,
voilà. S'il n'y a pas de laisser aller, déjà comme disait Brigitte, il y a très peu de femmes qui aiment le vrai cunnilingus, et aussi
ça, j'ai pas dit ça.
Enfin, il y a peu d'hommes qui font des très très bons cunis. Ouais. Peu d'hommes qui savent très très bien.
L'éjaculateur prématuré.
Non, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'hommes maintenant qui sont doués. D'ailleurs, dans les enquêtes, il y a plus d'hommes qui aiment le cuni que de femmes qui aiment la fellation. Il faut quand même toujours le rappeler.
Ouais,
hein, contrairement à ce qu'on entend, c'est encore une fausse idée reçue.
Et ils cherchent à apprendre plus aussi.
Il faut venir à l'art du cunnilingus en Belgique.
C'est un
atelier.
Oui,
et nous on fait l'art de la fellation, ça c'est moi qui l'anime. Et on est déjà au niveau 3, parce qu'on fait donc niveau 1, 3 heures. On m'a demandé le niveau 2, maintenant voilà, on prépare le niveau 3, tellement il y a à apprendre, effectivement, parce que souvent on ne sait pas très bien où trouver l'info. Et bon, oui, la pornographie montre. Ouais. Mais voilà, montre.
Et c'est, excusez-moi, avec des exercices pratiques.
Alors c'est ce qu'on nous demande toujours, oui. Mmh. Mais par exemple, moi, pour l'art de la fellation, c'est sur des fruits. Donc les femmes vont. Alors moi, je vais montrer sur des godes, sur des objets, mais pas sur un homme. J'ai beaucoup de candidats, mais.
Et le cunnilingus, c'est sur un fruit.
Alors là, ça va être. Donc là, c'est une collègue qui l'anime. Mmh. Et là aussi, ça peut être aussi. En léchant une pêche, par exemple, etc. Ouais. Et puis, voilà.
Mais pourquoi vous ne prenez pas des sexes artificiels
Mais les femmes, d'abord, la prochaine fois que j'ai 36 femmes, donc si je veux, c'est plus facile pour moi d'acheter 36 fraises ou 36 cerises, etc. Et puis il y a un côté, justement, les femmes ont envie de venir à cet atelier pour apprendre, mais de tout en restant dans la légèreté, dans le côté,
soft, éthique, érotique.
Érotique, voilà, érotique, je dirais, alors qu'un bon.
De toute façon, il faut manger 5 fruits et légumes par jour.
Donc voilà, on fait des gorges profondes sur des carottes et voilà, on s'amuse très bien.
Personnellement, moi j'ai un sexe artificiel. Donc je pouvais le proposer.
Oui. Parce que
la femme me dit, c'est un vrai feu d'artifice, elle me dit, alors, un sexe artificiel.
Eh ben voilà.
Voilà.
Eh ben oui, c'est bon. C'est mon Roussel a raison. Et allez, on écoute maintenant le témoignage tout à fait touchant de Frédéric qui venait de découvrir l'infidélité de sa petite amie.
RMC, vous aimiez les femmes avant? Vous allez les adorer.
Bonjour.
Vous avez 42 ans et vous avez découvert donc que votre compagne était infidèle.
Oui, tout à fait, il y a un mois de ça environ. Mm-hmm. Donc bonjour d'abord à votre invité, bonjour à vous Brigitte. Moi j'ai découvert que, j'ai découvert ça en fait, j'ai un ami qui, en fait c'est arrivé très bêtement, j'ai un ami qui fréquente plus ou moins des sites internet qui proposent des services d'escort burn.
D'accord, oui.
Et je suis tombé... je suis tombé face à une photo déguisée, mais j'ai reconnu immédiatement ma compagne. Quoi.
Et c'est votre ami qui a montré la photo de votre compagne, ou c'est vous qui, par curiosité, allez sur le site?
Lui, en fait, j'étais avec lui, il me dit, bon, mais écoute, je vais rencontrer cette fille, il ne parlait pas d'elle bien sûr, il parlait de notre fille, je vais te montrer le profil, je me dis, bon, et puis on se retrouve sur le site et sur une page en naviguant, en cherchant sa future escorte.
Entre bons copains, vous amusiez à regarder ensemble le site?
Ah oui, alors en fait, c'était quelque chose. Bon, moi, je ne suis pas client de ce genre de choses. Donc, bon, après, lui est client. Donc, il me dit, voilà, j'ai rencontré cette fille.
D'accord.
Je tombe sur sa photo à elle. Voilà. Je tombe sur sa photo à elle. Ça, bien sûr, c'est un grand choc pour moi. Un grand choc parce qu'on est trois ans. Ça fait trois ans que je m'accompagne.
Vous n'êtes pas mariés, hein. Vous êtes ensemble.
On n'est pas mariés. Ça a été un choc énorme.
Vous habitez ensemble?
Pas tout le temps. Parce qu'en fait, on a deux résidences. Et on n'est pas. Donc, on est 80% du temps ensemble. 80 à 90% du temps ensemble, dans tous les cas.
D'accord. Mais c'est important quand même, parce que dans ce cas, dans ce que vous racontez, hein, si elle assume son loyer, si elle assume sa vie, on peut penser que peut-être c'est un moyen d'arriver à subsister. Hein, je connais pas son histoire, mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose que si vous habitiez ensemble, si vous étiez vraiment un foyer commun, ça serait déjà plus ennuyeux.
Complètement. Alors, en fait, ce qui s'est passé...
Sans compter que vous tomberiez sous le coup de la loi du proxénétisme.
Et tout à fait.
Mais alors, ce qui n'est pas le cas, en l'occurrence, puisque vous n'habitez pas ensemble.
Non, voilà. Donc, du coup, bon, c'est une personne qui a des revenus, quoi. Ça a été un plus pour elle, je pense. Bon, ça, c'est venu après. Moi, j'ai découvert ça. Je lui ai, bien sûr, le jour même, je me suis rendu chez elle. Je lui ai bien annoncé que j'étais au courant. Donc, bon, je passe sur les détails des hausses de ton et des disputes, bon, peu importe, de la dispute, du choc, quoi, on va dire, de mon côté,
oui, j'étais
plutôt abattu et plutôt perdu, quoi, en fait, hein. Pas dans la haine, ni dans le rancœur, ni quoi que ce soit. Alors, elle m'a dit, elle m'a donné une version, elle m'a dit, bon, voilà, ça s'est passé une fois, j'avais un problème d'argent le mois dernier, je savais que ton ami y allait, que j'ai connu ça par lui, en fait, enfin, en sachant pas parce qu'il en parlait lui-même. Donc, c'est arrivé une fois. Et bon, ça se reproduira plus, bien sûr. D'ailleurs, son compte était désactivé à ce moment-là. Quand je suis tombé dessus, c'était pas un compte qui était actif. Donc, elle m'a dit, c'est arrivé une fois, il y a trois semaines, et ça n'arrivera plus. Ça m'a aidé à payer une facture. Bon, peu importe. Lors de mon appel, quand j'ai appelé votre équipe, en fait, que j'ai expliqué un petit peu ma petite histoire, j'étais aussi perdu que maintenant, en fait. Hein. Parce qu'en fait, j'ai quelqu'un que j'aime profondément. Voilà.
Et combien de temps que vous avez découvert ça?
Il y a un mois et demi.
Un mois et demi. D'accord.
Et en fait, je suis un petit peu... J'ai des phases de haut, des phases de bas, en fait. Alors bon, elle me dit, en gros... Elle l'assume, et en même temps, elle me dit... Elle n'en est pas fière du tout. C'est pas son style. C'est pas une personne. En fait, à la base, de par son tempérament, sa façon de vivre.
Mais on va revenir à vous, Frédéric, parce que c'est toujours important quand on a vécu quelque chose qui nous a fait mal et qui nous fait souffrir. C'est toujours important de comprendre ce qu'on ressent soi, parce que là, vous me parlez d'elle, d'accord, mais c'est vous qui êtes avec moi en ligne. Qu'est-ce que ça vous fait? Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous a franchement blessé? Est-ce que c'est le fait que ce soit une infidélité? Est-ce que c'est le fait qu'elle ait pu faire la pute, comme on dit? Qu'est-ce qui va pas?
C'est une infidélité. C'est le côté un petit peu... C'est la trahison. J'aime pas trop ce terme. Hein,
non, mais si c'est ce que vous ressentez. Mais en quoi vous vous sentez...
C'est un peu la trahison.
D'accord.
C'est un peu
les... Mais on va continuer dans ce sens. En quoi vous vous sentez trahi, Frédéric? Osez dire le fond de votre émotion.
Affectivement.
C'est-à-dire. Attendez, qu'on comprenne, Frédéric, il faut vraiment aller au fond de vous-même. C'est comme ça que vous pourrez dépasser le traumatisme. Est-ce que vous vous êtes senti trahi parce qu'au fond, elle a eu un problème d'argent et elle n'a pas su vous en parler? Est-ce que c'est parce que vous vous êtes senti trahi qu'elle puisse envisager de faire l'amour avec un autre homme? Vous voyez, c'est par exemple, c'est pas du tout la même chose. Alors, il faut que vous soyez clair.
En fait, c'est un tout, c'est une incompréhension. Moi, si vous voulez, en fait, ça me fait errer, quoi. J'erre complètement. C'est-à-dire qu'en fait, je passe 48 heures très bien avec elle, depuis un mois et demi, c'est comme ça.
Oui.
Je lui dis ouvertement, je te pardonne. Sur le principe, je pardonne parce qu'en fait, à être malheureux, autant être malheureux avec toi. Je veux dire, je veux pas être malheureux. Voilà. J'ai été très égoïste dans ma démarche au début. J'ai dit, voilà, je vais ni te le faire payer, ni me venger, ni quoi. Ça ne m'intéresse pas, ce genre de choses. J'ai dit, voilà.
Mais sauf que pour l'instant, alors j'entends bien et vous avez envie de continuer avec elle, mais sauf que pour l'instant, vous savez pas vraiment quelle partie de vous-même ça a touché. Vous savez pas trop.
Non.
Et c'est ça qu'il faut que vous alliez chercher.
C'est pas mon orgueil parce que...
Non, mais je crois...
Je vais être très clair avec vous. C'est pas mon orgueil du fait, surtout...
Mais vous êtes pas très clair avec moi.
parce que vous n'êtes pas très clair avec vous-même, Frédéric.
En fait, ce que je veux vous dire, c'est pas le fait qu'elle ait fait l'amour avec un autre homme.
Non, mais c'est le fait que vous découvrez une autre personne et que cette autre personne, vous savez pas quoi en faire. C'est ça votre problème. Hein, on est d'accord.
C'est l'incertitude, si vous voulez. C'est le fait que.
Frédéric, vous aimez cette femme profondément, je le sens, je l'entends. Mais tout d'un coup, vous découvrez que cette femme, elle a des facettes que vous ignoriez totalement et vous savez pas quoi faire avec cette facette que vous venez de découvrir. Mmh. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, au fond, elle est capable, si besoin est, d'aller faire l'amour avec un mec pour simplement peut-être s'acheter quelque chose dont elle a pas franchement besoin. J'en sais rien, je connais pas. C'est elle qui devrait parler pour que je puisse.
Elle m'a justifié la chose en me disant qu'elle avait une facture qui était évidente, qui était une facture réelle, quoi, à régler, qu'elle était embêtée, qu'elle voulait pas en parler.
Et ben voilà, et c'était plus simple pour elle d'aller tirer un coup que de vous en parler, parce qu'au fond, ça n'a pas tellement d'importance, au fond, tout ça. Vous voyez, et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est que cette femme-là, vous ignoriez que c'était aussi elle. Mais c'est pas grave, parce qu'au fond, elle n'a pas, elle, eu le sentiment de vous tromper. Vous voyez ce que je veux dire?
Elle me dit que non, elle me dit, alors bon, pour être clair, je veux dire, elle m'a dit, bon, mais ça c'est sa version, je lui ai dit de ne pas me raconter 50 parce que je ne voulais pas les entendre, mais elle m'a dit, voilà, j'ai fait une prestation, ça a été un massage, une fellation, j'ai gagné temps, point.
Et puis après, on se rince les dents et on se lave les mains et puis on passe à autre chose. Voilà. Ouais. Mais c'est ça qui vous inquiète, Frédéric. C'est cette capacité que peut avoir une femme. Et puis peut-être que si c'était une femme qui parle, ce serait la capacité qu'a un homme d'avoir un acte sexuel qui, au fond, n'implique en rien la vie amoureuse qu'elle a avec vous. Si vous l'avez vraiment compris, il va falloir que vous puissiez entendre que cette femme-là, c'est aussi la femme qui vous aime et il faut que vous arriviez à dépasser tout ça. Mais ne parlez pas de trahison. Là où vous vous sentez trahi, c'est parce que vous aviez une image de cette femme et que cette image ne correspond plus à la réalité. Mais vous voyez, mais c'est pas elle qui vous a trahi, c'est votre c'est l'image que vous aviez d'elle.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que je n'aimais pas le mot trahir, parce qu'en fait, je ne savais pas comment l'exprimer.
Alors, il va falloir un petit peu de temps. Il faut peut-être que maintenant, ensemble, vous discutiez si vous ne voulez pas qu'elle le refasse, que ça soit dit, hein, ou si vous acceptez qu'éventuellement elle le refasse. J'en sais rien, ça ne me regarde pas. Non. Vous voyez, essayez de mettre un point final à ce qui s'est passé, et ensuite on repart vers l'avenir et on essaye d'avancer avec d'autres projets et on ne ressasse surtout pas ce qui s'est passé. Hein.
Je l'espère.
D'accord. Mais ça, c'est à vous d'être clair aussi sur si bon bah ok.
Oui, moi c'était l'aspect en fait sur le fait qu'en fait on se croit. Vous savez quand on passe 3 ans avec quelqu'un, 3 ans comme 1 an, comme 6 mois parfois, on se sent parfois un petit peu invincible dans le couple. On sent que le couple, que l'équilibre est parfait.
Mais Frédéric,
cet équilibre il est très fragile.
On a tout au long de sa vie, on découvre sur nos amis, sur notre partenaire, même sur nos parents, sur nos enfants des facettes qu'on ne pouvait même pas imaginer. C'est ça la relation aux autres, Frédéric. Vous voyez ?
Ah oui, tout à fait.
Et il faut vraiment accepter. Alors après, ce qu'on va découvrir de l'autre, est-ce qu'on le supporte et est-ce qu'on peut le dépasser ou pas ? Ça, c'est un choix personnel à chaque fois, bien sûr. Hein. Mais qu'on découvre des facettes de l'autre qu'on ne soupçonnait pas, ça fait partie de la vie.
Tout à fait.
Et c'est pour ça que parfois, on peut être très déçu ou parfois très agréablement surpris aussi, heureusement. D'accord. Bon, j'espère que ça vous aura fait du bien de parler un petit peu.
RMC, c'est le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lae fait son show, c'est le Lae Night Show.
C'est vrai que ça passe vite, ces 2 heures en si bonne compagnie. Tout de suite, je vous propose d'écouter Peter, la petite amie voulait des nouvelles expériences sexuelles et nous écoutons Laurent également qui venait juste de se faire quitter par sa petite amie. Et puis pourquoi pas un petit cours de tantrisme, c'est avec Alain et Ril.
RMC, quand les femmes se lâchent, c'est dans le Lae Night Show.
Eh bien, Alain Heril est avec nous. Vous êtes sexothérapeute, sophrologue également. Et je crois que votre ouvrage, Le Sourire Intérieur, parle un petit peu de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, hein, de la sexualité sacrée. Comment vous définiriez cela, Alain Heril?
Alors, la sexualité sacrée, pour la définir rapidement, c'est tout simplement, si je puis dire, prendre conscience de la force de la libido, et prendre conscience aussi que la libido part de la sexualité pour aller vers autre chose. Et en général, l'image que je donne, c'est de prendre conscience de toute la force de la sexualité qu'on a dans le bassin, et pouvoir la mettre dans le cœur. Donc en fait, c'est la sexualité sacrée, c'est un orgasme du cœur. Et
c'est joli ça, un orgasme du cœur.
Oui, tout à fait.
La prochaine fois, je dirai à mon partenaire, donne-moi un orgasme du cœur.
Oui, mais c'est très agréable. mais en même temps, c'est ça qui est toujours très difficile à expliquer, c'est que ça n'annule pas la sexualité dans sa dimension génitale, mais ça la magnifie, ça la met autre part, ça l'emmène sur d'autres terrains. Et bien souvent, dans tout ce qui est sexualité sacrée, approche genre tantra ou tao ou autre, il est important de ne pas perdre l'idée que dans sexualité sacrée, il y a sacré, et que c'est un parcours spirituel également, et que cette dimension-là, elle est extrêmement importante. Donc on joue là avec des choses qui sont très subtiles et où l'énergie sexuelle, elle va être utilisée à autre chose qu'une sexualité génitale, bien entendu.
Et c'est un petit peu dommage parce que beaucoup de, alors pas tous, hein, y a des gens qui font du tantra en France qui sont formidables, mais beaucoup au fond font, moi j'appelle ça du touche-pipi, excusez-moi, hein, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on va toucher le corps d'un autre homme ou d'une autre femme, enfin quelqu'un d'un autre sexe, qu'on va s'élever et qu'on va comprendre ce qu'est le grand tout, le féminin, le masculin, je ne sais quoi, quel autre charabia, voilà. Donc attention, parce qu'on met un petit peu le mot tantra sur tout et n'importe quoi, alors qu'au fond le tantrisme au départ c'est plus une démarche spirituelle qu'une démarche sexuelle.
C'est même entièrement une démarche spirituelle. Et les exercices qui sont directement liés à la sexualité, ou parce qu'on va utiliser des parties du corps qui sont dites sexuelles ou érogènes, ces exercices-là, ça représente 10% du tantra. Donc c'est important de le dire, c'est vraiment une démarche qui tend à une spiritualité, et que la dimension de la méditation, par exemple, est très importante dans le tantra. Et que souvent, ce sont des méditations à deux, mais des méditations seules également. Donc c'est pas un univers dans lequel on va facilement tripoter des seins, des fesses, des sexes.
Ça s'appelle le libertinage.
Ça s'appelle le libertinage. Il y a des endroits pour ça, et que normalement c'est pas lié au tantra. Le tantra c'est un univers de joie, de sensorialité, de sensualité, mais ce n'est pas un endroit où on va débrider sa sexualité. Et c'est ce que je dis bien souvent parce que j'encadre des stages de tantra effectivement. Et effectivement. Je pense que les personnes qui vont vers le tantra, en général, c'est bien qu'elles aient fait auparavant un travail sur elles-mêmes. Le tantra n'est pas une thérapie, le tantra c'est un éveil sur le terrain spirituel, et la dimension thérapeutique, on la fait avec un thérapeute, on la fait pas dans ces endroits-là, sinon ça peut devenir très vite du grand n'importe quoi.
Pour continuer, c'est Peter qui est avec nous. Bonjour Peter.
Oui, bonjour Madame Laye, bonjour Alain Heril.
Bonjour.
Voilà, j'ai une question à vous poser, puis c'est vrai que l'amour, la sexualité est sacrée. C'est une suite logique de ma question, parce que je vous ai entendu parler de la sexualité qui est sacrée. Donc voilà, je suis marié, j'ai une femme que j'aime, et elle aimerait connaître quelques aventures, parce qu'elle n'a pas connu du tout tout jeune, elle n'a rien connu en réalité, et elle a autour d'elle des amis qui ont fait l'expérience, par exemple avec des femmes ou avec d'autres couples, mais de mon autre côté il y a le point de la religion qui nous gêne. Donc je voudrais demander à Mme Laye quelques conseils à ce sujet afin de nous aider.
Bah écoutez, je crois qu'il faut y aller très progressivement. Le poids de la religion, c'est... La religion, elle interdit pas la sexualité. Elle interdit certaines pratiques, peut-être, mais elle interdit pas la sexualité tout court. Si vous vous aimez, si vous êtes en couple, vous avez...
Si, nous sommes en couple. Nous n'avons pas de problème au niveau sexuel.
Donc, il n'y a pas d'interdit à faire l'amour.
peut-être simplement qu'il faut y aller très progressivement pour que l'interdit moral et la croyance que c'est un peu que c'est je sais pas comment vous le on pourrait le formuler, mais que c'est un petit peu interdit justement se libère. Il faut que le plaisir tout doucement et l'intimité et l'amour que vous portez l'emporte sur le fait que la sexualité c'est peut-être interdit.
Voilà. Mieux de faire ça lâcher soi, par exemple, d'avoir des rencontres à son domicile, peut-être, ou qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bonjour Peter. J'ai un peu travaillé sur les traditions monothéistes notamment et en fait c'est toujours très important de revenir au texte parce que lorsqu'on lit les textes sacrés la plupart du temps on retrouve le fait que dans le cadre de la relation conjugale du mariage que la sexualité a une dimension qui est sacrée, qui est vénérée, qui est reconnue. Même dans certains textes, on va retrouver le fait que l'orgasme féminin, masculin, va être vénéré. Donc, il faut bien faire la différence entre le texte lui-même de base et puis l'interprétation du texte, qui sont deux choses différentes. Mais je crois que la religion n'est pas antinomique avec la sexualité sacrée. La seule chose, c'est qu'elle place cette sexualité dans le cadre du couple.
D'accord. Bon ben, on va s'y mettre et puis je vous dirai par la suite.
Oui, mais commencer par... on n'en parle pas assez. Mais c'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on peut pas flirter. Donc commencer par du flirt et des flirts assez poussés avec des caresses et faites l'amour quand vous vous sentez vraiment en communion l'un avec l'autre. Et j'utilise volontairement le mot communion. Et à ce moment-là, on fait l'amour dans une vraie relation à l'autre.
D'accord. En fait, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a une éducation, qui a reçu aussi une éducation très, très correcte, comme on dit. Et elle a de plus en plus d'amis, femmes, justement, en groupe également, qui ont connu des aventures. Donc, ça fait un moment qu'on en parle. Et puis, j'ai dit, ça fait 7 ans que j'écoute votre émission. J'ai dit aujourd'hui, bon, j'essaie de l'appeler pour vous demander enseignement. En tout cas, je vous remercie.
Ben, je vous en prie, Peter, on est là pour ça.
D'accord, merci madame. Merci monsieur, au revoir.
Merci, au revoir. Et on aborde un tout autre sujet. Laurent, bonjour.
Oh oui, bonjour Brigitte, bonjour. Alors tout d'abord, j'aimerais commencer par vous dire que je suis très admiratif de ce que vous faites pour les gens et vous êtes un vrai médicament pour tout le monde et vous devriez être remboursé par la Sécurité sociale. Et je salue aussi votre invité.
Merci.
Qui est également un très très bon sexothérapeute, Alain Eril. Voilà. Merci, Laurent.
Ah ben, de rien.
Mais je ne tiens pas à être remboursé par la Sécurité sociale. Je crois que... C'est gentil, mais vous savez vraiment, c'est ce que vous me dites ou ce que vous m'écrivez qui me paye largement. J'ai de plus en plus envie d'être tous les jours à l'antenne parce que c'est formidable de transmettre, de donner et de rendre les gens plus heureux. Vous savez, Laurent, ça n'a pas de prix. Hein, c'est extraordinaire.
C'est sûr. En tout cas, vous le faites très bien.
Bon, alors, voilà. Écoute, on vous écoute.
Alors, ce que j'ai risque de dire va être un petit peu confus, parce que je suis un petit peu perdu dans ce qui m'arrive actuellement. Donc voilà, si je peux perdre de temps en temps, n'hésitez pas à me rattraper. Voilà, je suis depuis 4 ans avec une jeune femme pour qui j'ai divorcé. J'avais une ex-femme et j'ai décidé de divorcer parce que je suis tombé amoureux de cette personne. Et donc, ça fait 4 ans que nous sommes ensemble et j'en arrive aujourd'hui au fait que, en fait, elle veut tout arrêter avec moi. Elle me reproche tout, c'est-à-dire de ne pas m'être investi dans le couple, de ne pas lui parler de faire d'enfants, de ne pas faire de projets, et alors que ça fait 3 ans que je me bats avec elle pour quitter son domicile familial pour pouvoir vivre notre propre vie de couple. Et le problème, c'est que j'ai...
Donc vous habitez chez ses parents, c'est ça ?
Tout à fait. J'habite, voilà, au départ c'était pour nous rendre au service, et puis ça s'est éternisé. Et puis bon, les choses ont commencé à se gâter un petit peu, et donc à partir du moment où ça a commencé à se gâter, je lui ai dit, on se prend un appartement, on vit notre vie, on reprend notre couple en main, on se consacre à nous, et voilà. Et en fait, elle n'a jamais voulu, prétextant différentes choses, ses parents, enfin bref, différentes choses. Et je me retrouve aujourd'hui le bec dans l'eau, en me reprochant tout, en fait.
Donc, elle est très collée à ses parents, j'imagine.
Oui, entre autres. Oh, oui. Et le problème, c'est que bon, dès le départ, c'est une histoire entre nous qui n'a jamais vraiment été acceptée par les gens qui nous entourent. On a été jugé par tout le monde, j'ai perdu mes amis, notre couple n'a jamais vraiment été accepté. Mais voilà, je me retrouve face à un mur. J'ai beau lui dire ce qui ne va pas, j'ai beau lui demander qu'on s'en aille, qu'on prenne notre couple en main, rien n'y fait, absolument rien. Alors, au-delà de ça, elle me reproche de ne pas être assez câlin. Alors que comment voulez-vous que l'on soit câlin alors qu'il y a les yeux de ses beaux-parents? Ça fait 3 ans qu'on n'a pas réellement d'activité. On est sous le même toit, donc et ça, impossible de lui montrer.
Mais Laurent, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en colère contre elle?
Oui, je suis en colère parce que je
non,
suis
mais
en
vous avez
parce que,
vous avez raison, hein. Mais je veux dire, vous en rendez compte.
Je suis en train de la perdre pour des choses que j'aurais peut-être dû faire plus tôt. J'aurais peut-être dû prendre moi l'initiative de prendre un appartement et ça se trouve elle m'aurait même pas suivi pour les prothèses qu'elle me donne.
Non, je pense que vous l'aviez perdu d'avance de toute façon.
Et oui, je pense que la situation fait que notre couple était perdu d'avance effectivement.
Oui.
Mais je suis en colère.
Mais c'est pour ça que vous êtes. Mais c'est pour ça que vous êtes. Non, mais Laurent, c'est pour ça que vous êtes en colère parce que vous rendez compte que vous avez peut-être quitté une femme pour une illusion. Et c'est toujours très désagréable.
C'est la femme de ma vie. Je pensais que ça pouvait être la femme
mais
de ma vie.
Mais vous vous êtes trompé. Et c'est ça oui. C'est ça souvent qui nous met en colère. Mais c'est parce qu'on va accepter de reconnaître son erreur qu'on va être moins en colère et que là on va pouvoir réagir je vais pas dire en pleine conscience, mais avec un peu plus de raison.
Oui, mais d'un côté, c'était pas normal qu'une femme qui est en couple refuse de quitter le domicile familial pour reprendre son couple en main.
Normal. Vous croyez que ce mot, il existe dans les sentiments amoureux?
Non, bien sûr, il n'y a pas de normalité, mais à un moment donné, on essaye de mettre des choses en place, mais je suis face à un mur, et en fait, je me retrouve aujourd'hui à tout me reprocher, alors que la seule chose que je suis demandé, c'était de reprendre notre couple en main, de vivre notre propre vie. Et c'est ce qui nous a tués, c'est ce qui a tué notre couple.
Oui, mais il me semble, Laurent, en vous écoutant, que vous n'avez pas trouvé vous dites que vous avez trouvé la femme de votre vie, mais elle aurait aimé que vous trouviez la famille de votre vie. Donc c'est ça.
Oui,
je pense que c'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire que vous avez un tissu familial, une entité familiale en face de vous, et vous n'avez pas perdu cette femme. On vous l'a rapté. On ne veut pas que vous l'ayez. Donc je pense que vous avez tout intérêt. Je ne sais pas quelle va être la suite des événements, mais en tout cas à vous éloigner de cette cellule familiale et à espérer que votre compagne comprenne des choses de par cet éloignement et éventuellement vous retrouve, parce que rien ne peut avoir lieu à l'intérieur de quelque chose où les dés sont pipés d'avance et où en fonction de ce que vous dites vous pouvez pas avoir de sexualité, pas d'intimité, parce qu'il y a les yeux des parents qui sont là autour. C'est extrêmement difficile, voire impossible.
Alors, une sexualité, on en a une, on s'entend sur énormément de points, de ce côté-là, on n'a aucun problème. Mais c'est vrai que ce manque d'intimité et ce manque de... En fait, elle me reproche aussi donc de ne pas être assez câlin. Mais comme je lui ai dit, il n'y a aucun couple qui se font des bisous et des câlins toutes les 10 minutes, même quand ils habitent chez eux. Et là, encore moins sous les yeux de ses parents.
Mais est-ce Laurent, objectivement, est-ce qu'elle a commencé à vous critiquer quand vous avez évoqué de plus en plus fréquemment le désir de quitter justement cet hébergement familial?
Oui, bien sûr que oui.
Et ben voilà.
Oui.
Donc voyez bien qu'au fond, elle s'en rend pas compte. Hein, d'ailleurs, je pense que
c'est quelque chose qui m'en fout. Ça m'en fout de qu'elle ne voie pas la vérité.
Mais parce qu'elle ne peut pas.
Mes amis, pour eux, c'est normal. C'est normal de partir, de vivre son.
Non, mais Laurent, quand on ne peut pas voir la vérité, on ne la voit pas. Et donc, elle ne peut pas imaginer se séparer de ses parents. Pourquoi? Ça, je n'en sais rien. C'est vous qui peut-être pouvez me donner la réponse. Mais en tout cas, c'est pas possible pour elle. Elle est collée. J'ai utilisé volontairement tout à l'heure cette expression. Elle est collée à ses parents. Et là, vous êtes en train de vouloir la décoller. C'est trop douloureux pour elle. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous rejette.
Oui, c'est ça. Mais
donc,
il faut être adulte aussi. Il faut consacrer à son couple.
Mais c'est jamais, vous savez, c'est rarement, en tout cas, le partenaire qui peut faire prendre conscience de quelque chose d'aussi aigu à l'autre. Alors, moi, je crois que vous avez deux solutions. Hein. Soit vous acceptez la situation telle qu'elle est, mais elle va devenir de plus en plus invivable. Soit, en effet, vous prenez vos distances et puis vous verrez si elle accepte de continuer à vous voir. Et éventuellement, mais vous êtes piégé vous-même parce que ça fait 4 ans.
que finalement vous avez cédé à quelque chose qui de toute façon n'était pas tellement gérable, parce que je pense que dès le départ vous auriez pu vous rendre compte qu'elle était collée justement à ses parents.
Oui, et puis vous savez Laurent, la seule personne que vous pouvez changer au monde c'est vous, hein, c'est pas elle. Elle ne changera que si elle a une nécessité à changer, alors peut-être qu'en vous éloignant elle trouvera cette nécessité ou peut-être pas, mais de toute manière elle ne peut pas être conforme à ce que vous voulez parce qu'elle n'en a peut-être pas les moyens, les outils, la possibilité, et ça c'est dommage à dire, mais c'est comme ça, c'est un constat.
En tout cas, dans un premier temps, Laurent, il faut que vous appreniez à réaliser à quel point vous êtes en colère et à mieux comprendre les vraies raisons de votre colère, c'est ça qui va vous permettre d'agir dans la bonne direction.
Oui, tout à fait. Et je pense que ça, c'est très important parce que la colère est très liée à la frustration. Et là, il y a une frustration.
Oui,
qui
ou
est
un
énorme.
Sentiment de ouais, trahison.
De trahison, d'injustice.
D'injustice,
bien sûr,
etc. Tout à fait. Bien sûr. Bon courage, Laurent. Le tantrisme, on peut également, si on a envie d'en comprendre mieux les tenants et les aboutissants, Julie Duchemin, je crois que vous en faites aussi des stages.
Des ateliers, tout à fait. Initiation tantra, au massage tantrique. Voilà, on a fait récemment le masculin sacré, 12 hommes en atelier. Donc, c'est bien aussi d'avoir des ateliers. Il est juste pour les hommes, juste pour les femmes. C'est très précieux.
En tout cas, merci beaucoup Julie Duchemin de votre présence ce soir. Merci Jessica et puis à très vite à l'antenne donc puisque vous êtes une de nos plus fidèles auditrices sur RMC. Simon Roussel, merci beaucoup.
Merci,
vous êtes
Brigitte.
Bioénergéticien et si on apprécie votre humour, on peut le retrouver dans cette série Bistrot de la paix qui est diffusée sur internet. Alors, on va conclure ce soir avec un extrait de ce livre de Tony Bentley qui était sorti aux lectures amoureuses La Musardine, ça s'appelle Ma réédition. Et alors c'est un livre qui est assez extraordinaire. Cet auteur, Tony, est toujours sans doute d'ailleurs une danseuse classique. Et c'est un livre érotique évidemment. C'est une véritable ode à la sodomie. Elle en parle de manière extraordinaire. C'est un livre que je trouve particulièrement intéressant et qui pour moi fait partie des grands classiques de la littérature érotique. Et puis je vais vous en lire un petit texte. Extrait pour conclure. La manière dont un garçon pousse son bassin, c'est un grand facteur érotique qui est souvent méconnu. Une petite verge associée à une puissante poussée peut aboutir à une plus grande domination qu'une grosse verge qui bouge mal ou qui sait pas danser. Personnellement, je ne puis aimer une queue qui ne domine pas. Sinon, je garde trop de pouvoir et je deviens complètement tyrannique. Et puis, il faut aussi tenir compte de la largeur, un élément bien moins fréquemment évoqué par les hommes, ce qui sert à prouver une fois de plus qu'ils se soucient beaucoup plus des autres hommes que de leurs femmes. Or, une queue épaisse peut produire un sentiment de domination autrement plus fort qu'une longue. Dans une chatte, où les plus fortes sensations se situent à l'entrée, dans un cul, la longueur compte davantage. C'est plus dur d'en enfourcher une longue, mais une fois dedans, elle va plus profond. On a l'impression qu'elle toque à votre cervelle pendant qu'elle vous viole l'âme. En résumé, s'agissant de la taille d'une verge, la formule idéale, c'est largeur pour la vulve, longueur pour le cul. Ce qui certes souligne l'importance de la variété. Même si, à l'évidence, un imposant braquemard n'est pas toute la réponse, il peut bien sûr être l'attribut d'un sale con, c'est peut-être la réponse à votre trou à vous, ce qui est un bon départ. Formidable.
Formidable.
Et c'est tout le livre qui est comme ça.
Allez, je peux l'emprunter pour les vacances.
Bien sûr, c'est mon Bruxelles. Allez, on se retrouve lundi. Lundi, on sera avec Ovidie, Florence Escarévedge et Vincent Cespedes. Voilà. Et notre sujet, ce sera les jeunes filles sont-elles encore des princesses ou des salopes? Bonne nuit à tous.
RMC, c'est le Late Night Show.